Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Jean Todt, l'envoyé spécial du secrétaire général pour la sécurité routière, est notre invité. Il préside aussi la Fédération internationale de l'automobile. Il y a quelques semaines, il a participé à New York au forum politique de haut niveau sur le développement durable. L'occasion de rappeler le fléau que représentent les accidents de la route qui tuent chaque année plus de 1 300 000 personnes et en blessent 50 millions, principalement dans les pays en développement. Jean Todt, à qui Florence Westgaard a tendu son micro.
Jean Todt, merci beaucoup d'être parmi nous à ONU Info. Donc vous êtes envoyé spécial du secrétaire général pour la sécurité routière et aussi président de la Fédération internationale de l'automobile, donc la FIA. Pour commencer, en quoi la question de la sécurité routière est si importante?
Eh bien malheureusement, 1 300 000 personnes meurent sur les routes tous les ans. Il y a entre 30 et 50 millions de blessés avec des conséquences graves. C'est la cause de mortalité numéro un pour les jeunes, entre 14 et 29 ans. Il y a tous les jours 3 500 personnes qui meurent sur les routes, dont 500 enfants. Donc ça veut dire que ce sont des chiffres supérieurs à ce qui se passe au niveau d'autres pandémies comme la malaria, comme le sida. Et il faut absolument agir. Et c'est à ce titre que j'ai l'honneur d'être l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière.
Et donc, que peut être fait justement pour considérablement améliorer la sécurité routière ?
Alors, tout dépend des pays. Il y a les pays que nous appelons les pays développés, où les gouvernements se sont engagés pour diminuer le nombre de victimes sur les routes. Vous prenez l'exemple de la France, je suis français. En 1975, il y avait 18 000 morts sur les routes tous les ans. Plus de 40 ans plus tard, il y a 5 fois moins de morts sur les routes, donc à peu près 3 600 victimes, ce qui sont 3 600 victimes de trop, je précise, mais néanmoins 5 fois moins qu'il y a 45 ans, avec 3 fois plus de véhicules. Et ça, c'est un fait positif que l'on retrouve dans tous les pays développés, et notamment les pays de la Communauté européenne. Par contre, dans tous les pays en voie de développement, eh bien, c'est le contraire. Les chiffres ne cessent d'augmenter. Ce qui veut dire que si aucune action vigoureuse n'est entreprise par les gouvernements, eh bien, en 2030, on pourrait se trouver avec 2 millions de morts sur les routes et 80 millions de blessés. Donc ça veut dire qu'il faut que tous les gouvernements des pays en voie de développement prennent conscience de cette tragédie et agissent. Et mon rôle en tant qu'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, c'est déjà de les impliquer, de les sensibiliser sur cette situation et puis ensuite de les encourager à adhérer aux conventions de sécurité qui sont mises en place par l'agence UNSI qui est basée à Genève, qui entre parenthèses également abrite mon secrétariat. Et puis c'est de travailler avec les différents acteurs pour que cette situation puisse changer. Malheureusement, on constate que dans tous les pays en voie de développement, entre 30 et 40% des victimes sont des piétons. Donc on ne parle pas simplement d'automobilistes, mais des piétons, des utilisateurs des deux roues. Et nous avons l'ordonnance pour répondre à ces problèmes. C'est l'éducation, c'est l'application des lois, c'est la qualité des véhicules, la qualité des routes et la qualité des secours après un accident. Et des choses extrêmement simples, comme attacher sa ceinture de sécurité, mettre un casque homologué, respecter la vitesse, ne pas conduire après avoir bu, ne pas utiliser son téléphone en conduisant ou même en étant un piéton, parce qu'on peut devenir à ce moment-là un obstacle et un danger pour les utilisateurs de la route motorisé. Donc, tout ceci fait partie de plans qui sont mis en place ou qui doivent être mis en place en fonction des pays. Il y avait un problème également de disponibilité de fonds. Et en avril dernier, le secrétaire général a fait voter par les pays membres un fonds pour la sécurité routière qui était quelque chose de nouveau. Entre les montants dédiés à la route comparés à ceux dédiés au sida, par exemple, on parle d'une échelle de 1 à 1000. Donc il fallait réellement être sensibilisé et mettre en place des actions extrêmement vigoureuses.
Et bien sûr, l'expansion urbaine se développe dans le monde entier. Qu'est-ce que cela signifie dans la façon dont les gens voyagent et pour la sécurité routière ?
Effectivement. D'ailleurs, c'est un sujet dont nous avons beaucoup parlé ces derniers temps avec l'exécutif directeur de UN Habitat, Maïmouna Sharif. Il y a aujourd'hui environ 50% de la population qui habite dans les villes. Et les chiffres que je vous communiquais, environ 50% des victimes sont dans les villes. Et entre 2030 et 2050, il y aura plus de 70% de la population mondiale qui habitera dans les villes. Donc là aussi, ces chiffres ont un potentiel extrêmement fort d'augmenter si les mesures nécessaires ne sont pas prises. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels nous travaillons pour avoir ce qui s'appelle des smart cities, des villes plus sûres, des villes mieux organisées, et également penser au trafic et à la circulation, parce que la congestion est un des gros problèmes des temps modernes dans les villes. Et là aussi, ça crée de la fatigue, ça coûte énormément d'argent et ça crée beaucoup de pollution.
Quel est le lien entre justement transport en commun et la sécurité routière ? Je pense que bien sûr avec le développement urbain, c'est important les transports en commun, n'est-ce pas ?
Alors, on n'a pas encore parlé d'objectifs du développement durable. Et heureusement, la sécurité routière a été inclue dans ces objectifs du développement durable. L'objectif 3.6 qui est de réduire par deux le nombre des victimes sur la route d'ici 2020. Donc malheureusement, on sait que cet objectif ne pourrait pas être atteint. Mais en tout cas, il faut avoir des objectifs ambitieux pour faire en sorte qu'on s'intéresse plus au problème. Et puis l'objectif 11.2 qui est de donner à tous les utilisateurs de la route la possibilité d'accéder au transport en commun d'ici 2030. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Et ça fait partie, là aussi, de l'engagement que nous demandons à tous les maires, tous les gouvernements, tous les responsables de région, de manière à ce qu'on puisse donner accès au transport public à tous les citadins.
Et partout dans le monde, bien sûr.
Partout dans le monde, alors là aussi, on sait très bien qu'il y a le monde d'y développer et puis il y a le monde en voie de développement et tout le monde n'est pas sur le même plan. Et c'est pour ça qu'on voit des scènes terribles avec des boda-boda aux Philippines, par exemple, ou dans tous ces pays en Afrique ou en Asie, avec des véhicules qui sont en mauvais état, qui sont surchargés, avec les passagers qui sont bien évidemment pas attachés, donc qui sont transportés dans des situations extrêmement précaires. Donc ça, il faut que ce soit adressé. Et puis, comme il n'y a pas de transport public à disposition pour ces gens-là, et bien, qu'est-ce qui se passe ? Souvent, on voit une famille, 3, 4, voire 5 personnes sur une petite moto, vieille, sans casque, ou avec des casques qui ne sont pas homologués, et ça crée un carnage sur les routes.
Et justement, en parlant de sécurité, sécurité des familles, sécurité des enfants, vous soutenez une campagne pour s'assurer que chaque enfant rentre à la maison en toute sécurité. Donc, que diriez-vous aux jeunes enfants de la sécurité routière et aux adolescents ?
Alors, j'en viens à des règles qui sont des règles à mettre en place et surtout à suivre. On a parlé de la ceinture de sécurité, on a parlé de la vitesse, on a parlé du casque, on a parlé de l'alcool, du téléphone, mais ce sont des règles à suivre directement et indirectement. Alors directement, parce que on est soi-même confronté à ses choix. Et quand je dis indirectement, c'est qu'il faut s'assurer que lorsque vous êtes passager, vous êtes transporté, eh bien, ceux qui vous transportent, ceux qui vous conduisent, appliquent ces règles. C'est absolument indispensable. Et là aussi, il faut qu'il y ait les forces de l'ordre qui soient là pour faire appliquer ces lois, parce que sinon, ça ne sert à rien d'avoir des lois si elles ne sont pas appliquées.
On a parlé bien sûr de statistiques, on a parlé aussi des pays. Est-ce qu'il y a plus de régions qui sont plus dangereuses que d'autres ou c'est vraiment partout dans le monde?
Non. L'Europe, c'est le bon élève. Il y a d'autres pays dans le monde qui ont fait des progrès remarquables. Je pense à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, au Canada, au Japon. Et il y a les mauvais élèves qui sont principalement en Afrique, qui sont dans des pays en Asie. Je pense à la Thaïlande, à l'Indonésie. Je n'ai pas tous les cités, mais malheureusement, beaucoup de pays en Asie et également des pays en Amérique latine et au Moyen-Orient. Vous voyez qu'il y a beaucoup de travail à faire si on veut atteindre nos objectifs.
Vous étiez vous-même un pilote professionnel. Quelle est la leçon la plus importante que vous avez apprise en course et que vous appliquez aujourd'hui en tant qu'envoyé spécial?
J'ai déjà la discipline. De par les fonctions professionnelles que j'ai exercées, j'ai eu malheureusement à faire face à des situations dramatiques. Et donc, ça fait réfléchir à ce qu'il faut faire. Et la compétition automobile est devenue un laboratoire. Donc d'un côté, c'est un spectacle où il y a un grand enthousiasme à travers les passionnés, des millions de passionnés dans le monde pour différentes disciplines qui sont la Formule 1, la Formule électrique maintenant, les rallyes, les 24 heures du Mans. Mais ça ne doit pas être uniquement un spectacle. Ça doit être également un laboratoire. Et un laboratoire, et on voit que tous les progrès qui ont été faits, notamment dans des disciplines sur circuit en monoplace, où on a travaillé sur les circuits, on a travaillé sur les voitures, on a travaillé sur les équipements, ce qui fait qu'aujourd'hui, la compétition automobile est beaucoup plus sûre. Et beaucoup de ce qui est fait en compétition automobile peut et doit être reporté sur l'utilisation quotidienne des quatre roues et des deux roues.
Dernière question. Aujourd'hui, on parle en France justement de limitation de vitesse à 80. Et que pensez-vous?
C'est-à-dire qu'on passe de la nouvelle réglementation depuis le 1er juillet, c'est de baisser la vitesse sur les routes départementales à double sens de 90 à 80.
Vous pensez personnellement, que c'est une bonne chose?
Si ça peut sauver des vies, bien sûr que c'est une bonne chose. Il faut sauver des vies. Alors cela étant, là aussi, il faut s'assurer que ces mesures soient contrôlées, parce que mettre en place des mesures, s'il n'y a pas suffisamment de contrôle, ça ne marchera pas. Ensuite, il faut bien expliquer aux gens. Je pense que éduquer, c'est absolument indispensable, faire comprendre. Alors, en France, il y a eu beaucoup de réactions négatives, il y a toujours beaucoup de réactions négatives. Mais cela étant, on n'explique pas aux gens que parcourir à vitesse continue à 90 km/h pendant une heure, ou à 80, ça fera environ sur une heure moins de 7 minutes d'écart. Et j'en reviens à ce dont nous parlions, le trafic, la congestion. Parfois, pour faire 2 km, vous mettez une heure. Donc là aussi, il faut être capable de bien comprendre les problèmes, de bien les appréhender, et puis ensuite de régler les problèmes tels qu'ils doivent l'être.
Et bien informer le public.
Et bien informer les utilisateurs de la route, absolument. Je pense que l'initiation, la formation, c'est absolument indispensable.
Jean-Antoine, merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, fin de ce magazine Escale sur la sécurité routière, un magazine présenté par Jérôme Longuet avec la collaboration de Florence Westgaard et de Carlos Macias. Un programme hebdomadaire d'ONU Info à retrouver avec tous nos journaux, vidéos et articles sur Internet et sur les médias sociaux. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.